Long rebound. Steph, no timeout with six. At five, Curry for the lead.
Always, always, always.
Salut à toutes et à tous, on espère que vous êtes en pleine forme. Alors on sait que le lundi c'est dur pour tout le monde, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a un podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Avant qu'on commence sur le sujet du jour, je voulais vous rappeler simplement que notre dernier MOOC, le numéro 14 spécial Spurs, vient de sortir. Donc voilà, si peut-être que vous l'avez déjà reçu dans votre boîte aux lettres, si vous êtes abonné ou si vous l'aviez précommandé. Si c'est pas le cas, pas d'inquiétude, les expéditions ont commencé la semaine dernière, moi-même je l'ai pas encore reçu, donc j'ai pas encore eu le plaisir de l'avoir en main. Sachez que c'est en route. Par contre, si vous ne l'avez toujours pas commandé, je vous invite à aller sur basketsession.com pour vous pourrez le trouver sans aucun problème. Voilà, c'est 240 pages pour comprendre pourquoi les Spurs sont une franchise résolument à part de toutes les autres. Qu'est-ce qui en a fait une franchise visionnaire à bien des aspects? Quels ont été les joueurs, les coachs ou les personnages qui ont été marquants dans l'histoire de cette franchise qui remonte à la NBA? Les moments aussi où ils sont complètement foirés, parce que c'est vrai qu'on a l'impression maintenant que les Spurs sont une équipe parfaite. Vous verrez en lisant ce MOOC que ça n'a pas toujours été le cas. Bref, il y a tout un tas de sujets. On doute pas que vous trouverez des sujets qui vous intéresseront. On parle de Victor Wembanyama bien entendu, mais c'est pas forcément le centre de ce numéro. C'est plus histoire de donner voilà, un contexte un petit peu à cette franchise qui fait énormément parler en France depuis le début de l'année et qui est un petit peu une franchise à laquelle on a forcément un petit point d'attachement en tant que Français, puisque c'est avec cette équipe que Boris Diaw et surtout Tony Parker ont remporté des titres il n'y a pas si longtemps, ou s'il y a longtemps en fait. C'est juste qu'avec l'âge, on voit plus les années passer. Bref, ce MOOC spécial Spurs est disponible sur le shop de basketsession.com. Pour le sujet du jour, on va parler d'un Français, mais pas un Français qui a joué aux Spurs, pour le coup, Shai, d'un Français qui a brillé dans l'Utah, qui brille maintenant du côté du Minnesota, donc toujours dans des régions où il fait froid l'hiver. On va parler bien entendu de Rudy Gobert, qui a pas mal fait parler de lui ce week-end. Shai, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le contexte, expliquer les raisons qui ont fait que Rudy a fait le tour des réseaux ce week-end?
Ouais, c'est pour des déclarations un peu polémiques et qui ont valu une amende record pour cette année, record sans suspension. Il y a eu des joueurs suspendus qui ont pris très cher, on pense évidemment à Draymond Green. Rudy a pris 100 000 dollars d'amende pour des propos qui ont fait suite à son expulsion du match contre les Cavs, expulsion pour une sixième faute, donc a priori rien d'anormal, sauf qu'il considérait que la décision était mauvaise et que son expulsion était motivée par des critères extra-sportifs de la part des arbitres. Et en sortant, si vous avez vu le match ou les images, vous avez peut-être vu qu'il a fait le signe des billets, en gros, en sous-entendant que les arbitres étaient corrompus, ce qui lui a valu une faute technique, en plus de l'expulsion, hein, donc ça a été double peine. Et dans la foulée, plutôt que de... Il savait qu'il prendrait une amende pour ça, hein, Luka Doncic a pris une amende pour ça, pour le même geste, c'est quelque chose de très européen finalement. il a insisté, en fait, dans ses propos, il a... expliquer sa pensée, donc les gens se demandaient ce qu'il voulait dire par là, est-ce que les arbitres étaient corrompus par une équipe, par la NBA, enfin ça pouvait vite penser à différentes choses, mais ce que ciblait Rudy, d'après ce que lui a dit après le match, c'était l'influence des paris sportifs. Je vais te lire la déclaration de Théo et je vais vous la lire. En gros, il disait, je vais de nouveau passer pour le méchant, je vais prendre une amende, mais je pense que cela, donc les paris sportifs, affectent notre jeu. Je sais que les paris sont en plein essor, mais on ne devrait pas se sentir comme ça. Ce n'est pas juste un coup de sifflet. Tout le monde fait des erreurs, mais quand ça se reproduit encore et encore, bien sûr que c'est frustrant. Donc, c'est explicite sans être explicite. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas facile pour tout le monde de voir ce à quoi il fait référence. Même lui, je ne sais pas s'il ciblait quelque chose en particulier. Je pense que dans tous les cas, il cible un des problèmes principaux que ressentent certaines équipes et certains joueurs depuis le début de la saison, c'est-à-dire des erreurs d'arbitrage qui semblent flagrantes aux joueurs et qui ont un impact sur le match, parce que là, ça se passe dans le quatrième carton, le match va en prolongation après ça, donc il a eu le sentiment que le résultat du match avait été faussé par cette décision, et je pense qu'il exprime le sentiment qu'ont certains joueurs qui vivent au quotidien les DM de certains fans qui envoient des insultes ou juste des requêtes. Tiens, ce soir, j'ai parié sur le fait que tu allais prendre 10 rebonds. Ou alors, après le match, il s'avère que le joueur n'a pas pris 10 rebonds, donc il se fait insulter. Ça vaut pour le basket, ça vaut pour le tennis. Enfin, tous les athlètes, malheureusement, connaissent ça. Et donc, je pense que Rudy fait référence à ce qui serait bah, un intérêt de certains arbitres. Alors là, c'était Scott Foster, ce très cher Scott Foster, qui aurait parié, alors pas directement évidemment, mais qui aurait fait parier des gens de son entourage sur, alors pas forcément sur le résultat du match, ça peut être sur, par exemple, l'écart de points entre les équipes, le fait qu'il y aurait une prolongation, le fait qu'un tel ou tel joueur prendrait 10 rebonds, comme je le disais tout à l'heure, et que du coup, il pouvait influer là-dessus, donc en sanctionnant un joueur plus sévèrement. Alors, ça peut passer pour une théorie du complot, mais je trouve que ça reflète un peu un état d'esprit, une sensation générale en NBA sur des décisions qui semblent incompréhensibles au niveau de l'arbitrage. On en avait parlé la dernière fois, Théo, avec Fred Young. Et voilà, donc Rudy, en regardant les copains de Bean, c'était sur l'émission d'hier, je crois, où il disait soit il en a trop dit, soit il n'en a pas assez dit. Je suis assez d'accord avec ça, mais d'un côté, il est déjà allé très loin, et plus loin que beaucoup, parce que personne n'a tenu ces propos-là pour l'instant. En général, on a un gars qui pète un câble, un coach ou un joueur qui il sait qu'il va prendre 25 000 dollars, il dit les arbitres, c'est pas possible, niveau catastrophique, on nous aime pas. Là, la NBA a sanctionné très fort parce que ça impliquait que les arbitres étaient carrément corrompus, et ça, c'est un step encore supérieur à ce qu'on avait vu jusque-là.
Oui, parce que tu as bien fait de le dire, mais c'est amende record, quoi. 100 000 dollars, c'est énorme quand même comme amende pour avoir parlé de l'arbitrage. Alors, il y a énormément de choses finalement à disséquer, je trouve. La première chose qui est quand même étonnante, c'est Rudy Gobert, qui est quand même un joueur quand même plutôt, qui fait pas de vagues. C'est pas un joueur qui fait des vagues. Mais par contre, quand il en fait beaucoup, quoi. Que ce soit juste avant le Covid, que ce soit maintenant, que ce soit parfois les polémiques alors pour lesquelles il n'est pas responsable, mais autour de ses sélections, non-sélections pour le All-Star Game, t'as l'impression qu'à chaque fois, on en fait des tonnes autour de lui. C'est quand même assez particulier, quoi. Moi, je trouve quand même que l'amende, je la trouve un peu disproportionnée, finalement, par rapport à la gravité du geste, même par rapport à la gravité des propos de Rudy. J'ai l'impression que c'est un petit peu que. Enfin, ça montre à quel point la NBA quand même a peur qu'on lui que ces histoires de paris sportifs viennent entacher son image. On se rappelle, alors si vous avez encore cette histoire en tête, mais qu'il y a un arbitre NBA, un ancien arbitre NBA, Tim Donaghy, qui a été reconnu coupable d'avoir joué justement sur les résultats ou sur le nombre de fautes, enfin le spread, c'est souvent ce qu'on appelle ça, le nombre de points d'écart pour une équipe au bout du compte, qui a fait la prison même, qui a été, enfin voilà, si vous regardez sur Netflix, il y a un documentaire sur lui dans lequel on en prend un peu plus sur comment ça s'était passé d'ailleurs.
C'est un copain de Scott Foster d'ailleurs.
Ben, j'allais y venir parce que c'est marrant, parce que finalement, c'est marrant que ça tombe sur Scott Foster ce match-là, parce qu'effectivement, le documentaire est quand même pas très clair sur tout, je trouve. Enfin, j'ai trouvé intéressant, mais j'ai pas trouvé qu'il était très clair sur tout. C'est quand même un documentaire qui donne largement la parole à quelqu'un qui a été reconnu coupable d'avoir truqué des choses, d'avoir menti. Donc, je trouve que la parole doit quand même être prise avec des pincettes. Mais effectivement, il y a un arbitre toujours en activité qui est là en espèce d'ombre. Dans tout ce documentaire, c'est Scott Foster qui, si l'on en croit le documentaire, était très pote de Tim Donaghy, et le documentaire note notamment les longs coups de téléphone passés par Tim Donaghy à Scott Foster avant ou après des matchs qui semblerait-il ont été truqués ou du moins manipulés d'une certaine manière. Voilà, il y a aucune preuve. Scott Foster de mémoire n'a pas été inquiété du tout dans l'investigation, mais bref. Moi aussi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé en voyant le truc. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça tombe sur Scott Foster. Et bon, là, c'est pas en rapport avec Chris Paul, mais c'est pour autre chose. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la sanction en elle-même, de ces 100 000 dollars? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu as vu...
Premièrement, j'ai pas été surpris parce que, comme tu le disais, la NBA, ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce que déteste Adam Silver et ce que détestait David Stern avant lui, c'est la mauvaise publicité, parce qu'il faut que le produit reste de valeur. Et sous-entendre que la NBA est truquée ou que les arbitres truquent des matchs ont un impact sur les matchs et des intérêts personnels dedans, ça fausse la qualité du produit, et c'est quasiment ce qu'il y a de pire. J'ai pas été surpris parce que c'est très réglementé, c'est codifié, et j'imagine, je connais pas le règlement par cœur, qu'il y a un alinéa qui dit en cas de sous-entendu de corruption ou de choses comme ça, c'est sanction maximale 100 000 dollars. Donc ça, je m'y attendais. Par contre, évidemment, si tu compares différentes situations, ce qu'on concernait Rudy notamment, tu prends Draymond Green qui l'étrangle, qui lui fait une prise de MMA, qui prend 25 000 dollars. 25 000, c'était Je me suis perdu avec les amendes et les suspensions de Draymond, mais en tout cas, ça a été moins sévèrement sanctionné financièrement que ce à quoi Rudy a eu droit.
Au niveau de l'amende en elle-même, parce que finalement, les matchs de suspension, c'est les suspensions sans salaire. Donc, mais
exactement.
Oui.
Mais, et tu prends, je sais pas, Rajakovic, le coach des Raptors, sa diatribe, elle était salée quand même. Enfin, on aurait pu se dire que c'était du même acabit. Fred Van Vliet aussi, je me souviens, cette saison, il a envoyé, ou la saison dernière, il a envoyé du lourd. Pour moi, ça impliquait aussi clairement que les matchs étaient faussés. Récemment, Monty Williams parlait de la fin de match contre les Knicks. Alors, ça pouvait plus pointer peut-être l'incompétence des arbitres plus qu'autre chose, mais à chaque fois, ils en reviennent au même truc, c'est-à-dire notre équipe est désavantagée, ça se répète. Donc, sous-entendu, on ne nous aime pas et on nous vise. Donc, ça paraît évidemment que c'est disproportionné par rapport à la gravité des propos. Enfin, il y a des choses qui semblent bien plus répréhensibles, mais ce n'est pas du tout étonnant parce qu'il a touché la NBA là où elle n'aime pas qu'on la touche.
Mais en fait, ce qui est un peu paradoxal, je trouve, c'est d'un côté la NBA qui pousse quand même sur les paris en ligne parce que c'est voilà, il y a énormément d'argent à se faire là-dessus. Et quelque part, du coup, si la NBA disait bah non, nous on peut pas parier sur nos matchs ou nous on s'associe pas avec des entreprises qui font du betting ou personne qui travaille pour la NBA ne peut être associé à des entreprises qui font du betting, je pourrais. Elle se donnerait une image plus clean, en tout cas, elle enlèverait, je pense, plus facilement des soupçons. Là, j'ai l'impression que, limite, en mettant une telle amende à Rudy Gobert, alors certes, ça envoie un message aux joueurs et aux personnes de la NBA, mais j'ai l'impression que ça attire encore plus l'attention sur les propos de Rudy, sur sa réaction d'après-match. Voilà, on va pas se mentir, un Cavs-Wolves, peu importe à quel point les équipes sont fortes ou sont belles équipes, on sait que c'est quand même des marchés qui intéressent avant tout les super fans plus que le grand public. J'ai l'impression que mettre une amende comme ça, finalement, ça braque plus le projecteur sur les propos, sur ce qui s'est passé, sur les insinuations, que si ça avait été une amende. Je dis pas que Rudy méritait pas d'amende, mais que si la NBA avait été passée plus en douceur quelque part.
C'est très possible parce qu'en tout cas, nous, on en parle. Je sais pas trop si aux États-Unis on en parle, ça, le déclin en elle-même. Rudy, on en parlera plus tard de son image, mais il a un peu, voilà, il a pas une très bonne image aux États-Unis. Donc ils se disent juste, oh bah c'est encore Rudy Gobert qui doit dire un truc, qui se victimise ou je ne sais quoi. Enfin, il a malheureusement cette étiquette-là. Mais t'as raison. Là, nous, en tout cas, moi, ça m'a interpellé. J'aurais peut-être pas tilté si j'avais juste vu les propos à la fin. Je me serais dit, bah c'est encore un joueur qui se plaint de l'arbitrage actuel. Ça ajoute, c'est un truc de plus, quoi. Mais t'as raison de dire que les paris sportifs ont pris, et Rudy a raison de dire que les paris sportifs ont pris une importance incroyable. Si vous écoutez des podcasts comme nous, on le fait, Zach Lowe, JJ Redick, tous, soit ils font référence aux cotes qu'il y a en vigueur à Vegas ou dans les autres États où tu peux parier aux États-Unis, en disant, bah tiens, moi je voyais cette équipe-là faire ça parce que les cotes de Paris, elles étaient à telle valeur, à telle hauteur. Et les joueurs sont confrontés aux parieurs constamment. C'est-à-dire que les mecs, les hecklers qu'on voit au bord des terrains, c'est plein de fois, souvent, c'est des mecs qui ont parié sur les matchs et qui sont foudrages et qui se mettent à insulter un tel ou un tel. Donc, moi qui suis pourtant plutôt amateur de paris sportifs historiquement, c'est-à-dire que je suis un très petit parieur, mais là, mais j'aime bien le fait, l'action de parier, en tout cas d'essayer d'utiliser une pseudo-expertise pour faire quelque chose là-dessus. Je trouve que ça prend des proportions incroyables, pas que dans le basket, hein, mais c'est ultra néfaste pour les athlètes, c'est ultra néfaste pour des jeunes gens qui. Enfin, la publicité est folle sur les paris sportifs aux États-Unis. Dans tous les podcasts que j'ai cités, il y a des segments de 15 minutes consacrés à DraftKings, Jules, je ne sais plus quoi, je me perds, Fan Jules, tu vois.
Oui, c'est ça, exactement.
En France, c'est pareil. Et pourtant, moi, encore une fois, j'aime bien parier. Ça m'arrive de parier dans l'année de temps en temps. Mais il y a des pubs, c'est du matraquage de folie. Donc, il y a de plus en plus de parieurs. Et il y a de plus en plus de parieurs qui prennent des risques financiers et qui vont harceler, insulter des athlètes, dont des basketteurs. Et je pense que Rudy en fait partie. Je pense que Rudy a dû recevoir. On pourra lui demander. Ça peut aussi expliquer peut-être qu'il ait ciblé spécifiquement les paris sportifs. Mais. Je pense qu'il reçoit aussi des messages insultants, des choses ultra déplaisantes qui sont liées au pari sportif. Et alors, est-ce que c'était utile de faire à ce moment-là une insinuation à ça? Est-ce que après, ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas, mais je pense qu'il a juste exprimé ce qu'il ressentait à ce moment-là, à mon avis.
C'est vrai que l'influence la place que prennent les paris sportifs, elle est assez étonnante. Moi, qui suis pas du tout, enfin, qui n'ai jamais parié sur aucun. J'ai même jamais placé de pari du tout, en fait. Donc, ce n'est pas du tout mon background, pas du tout ma culture. Pour moi, c'était toujours associé. Alors, effectivement, plus au sport de combat, parce que c'est historiquement, voilà, on est habitué à des grands scandales aussi du passé à ce sujet-là. Donc, je n'ai pas ces habitudes-là. Et je suis étonné même de voir, tu vois, tu parlais de podcasts qu'on peut écouter comme Zach Lowe. Je me rappelle un podcast où il expliquait clairement que lui, ce n'était pas son truc, mais il avait bien conscience du fait que ça devenait une composante avec à laquelle on ne pouvait plus échapper, en fait, aujourd'hui, quand on parle de sport. Et donc, maintenant, ça rentrait dans ses habitudes aussi d'aller regarder les cotes, que ce soit pour les trophées de fin de saison, pour les match-up en play-off. Ça rentre dans le quotidien de tout le monde. Et là où je comprends Rudy dans ce qu'il veut dire, ou du moins dans ce que je perçois de ce qu'il veut dire, c'est effectivement, il y a, je pense aussi, toute une partie maintenant du public qui... un nouveau public peut-être qui va se passionner pour les résultats en raison plus des paris qu'ils ont pu porter que pour l'intérêt de la rencontre en elle-même, en fait, finalement, de ce qui se passe pendant la confrontation.
Bien sûr. Après, culturellement, aux États-Unis, ils ont cette façon de procéder de... Nous, là où on va faire un podcast pour dire voilà comment on classe nos équipes, celles qu'on voit contender, outsider, machin, eux, ils vont se dire les équipes qui ont telle cote à Vegas, donc en ouverture de saison, ils vont faire des segments spéciaux sur leurs pronostics, mais avec vraiment les cotes à l'appui, pas comme nous, à moins d'avoir des partenariats, et y en a en France, enfin, des médias qui ont des partenariats, moi, j'ai pas de souci avec ça, c'est plus. C'est plus effectivement l'ampleur prise par ces trucs-là et par le nouveau public que ça a amené et qui est quand même moins civilisé à ce niveau-là que... Enfin, moi, j'ai l'impression, étant par ailleurs occasionnel, je le précise, j'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, c'était beaucoup moins véhément dans la manière de... sur les réseaux sociaux, tu vois, le nombre de mecs qui envoient des messages catastrophiques, même pas que vers les joueurs, mais juste en postant des choses sur les réseaux. Là, maintenant, c'est monnaie courante, quoi. Avant, j'avais l'impression que c'était pas. Tu râlais dans ton coin en disant ah là, le coach a fait sortir tel joueur à telle minute alors que j'avais misé 5 € sur le fait qu'il allait mettre 15 points. Enfin bref, c'était rien de. Là, j'ai l'impression que ça a vraiment pris des proportions. Et dans le business de l'NBA, ça en a pris beaucoup aussi. Depuis l'ouverture un peu à ces marchés-là, il y a de plus en plus d'États qui légalisent les paris aussi. Là, je crois qu'ils sont 38 maintenant. Donc c'est un peu quelque chose qui plane sans qu'on sache vraiment. S'il y a une réelle influence, parce qu'on n'a pas de preuves, Rudy n'a pas avancé de preuves en disant « je le sais bien, on me l'a dit que cet arbitre-là, il faisait ça », auquel cas, bon là, c'est diffamation et ça va encore plus loin qu'une amende de 100 000 $. On n'a pas d'éléments, a priori, à part regarder le match et dire « ah, c'est bizarre ce coup de sifflet, ça doit vouloir dire que tel arbitre a parié ou fait parier quelqu'un de son entourage sur un écart de points, sur ce que j'évoquais tout à l'heure au début ». Mais c'est quelque chose qui plane, qu'il y avait moins avant, en tout cas, je trouve, et je peux comprendre que ça titille certains joueurs. Rudy a été le premier. Il a dit, je vais encore passer pour le méchant. J'aurais aimé peut-être qu'il précisera, même si c'est peut-être pas une bonne idée pour son portefeuille. Mais j'ai pas trouvé ça inintéressant. J'ai lu un peu ici et là que c'était une réaction de rageux, qu'il aurait dû d'abord être plus mature. À ce moment-là, enfin même son assistant coach, je crois.
Lui-même l'a dit, ça, qu'il aurait dû avoir la maturité de ne pas faire ce geste-là.
Ouais, après, voilà, dans le feu de l'action, je pense que c'est compliqué. Des matchs à fort enjeu, il veut dire Minnesota se bat pour la première place à l'Ouest. C'est pas le premier à faire ça. Doncic a fait ça, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt dans la saison. Ça peut s'excuser. Après, ses déclarations d'après-match, c'est de sa responsabilité. Et je trouve pas ça inintéressant, en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'il ait fondamentalement tort. Je ne dis pas que l'arbitre avait parié dessus. Mais par contre, je pense qu'il n'a pas tort sur le fait que les paris peuvent être un peu problématiques s'ils ont vu l'importance qu'ils ont pris en NBA.
Ouais, limite, c'est presque deux discussions différentes. C'est vrai qu'honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à croire quand même que des arbitres seraient assez fous ou bêtes pour se prêter à ce genre de choses. Il faut rappeler que c'est considéré comme des crimes fédéraux, vu que ça implique de l'argent placé dans différents états. C'est tout de suite des peines de prison qui peuvent être lourdes, avec des répercussions. Tu risques pas simplement de te perdre ton job, quoi, si t'es reconnu coupable d'avoir participé à ce genre de manipulation. Ça veut pas dire que ça veut pas dire, bien entendu, que ça ne peut pas exister. Mais moi, j'aurais un petit peu de mal à y croire de cette manière-là. Par contre, c'est pas inintéressant que tu vois ce que tu disais sur les enfin les répercussions que ça peut avoir sur le comportement des fans, parce qu'on sait que genre Rudy Gobert, finalement, c'est presque c'est vraiment le type de joueur, je pense, pour lequel il peut pas plaire à des non connaisseurs de basket, et c'est finalement tout le problème, tout le fond du problème, si problème il y a, on y reviendra tout à l'heure là au sujet de Rudy, c'est que son impact, il est vraiment, c'est le type de joueur dont l'impact n'est vraiment pas visible, je trouve, à l'œil nu presque. Je veux dire, si tu comprends pas, même, enfin, c'était tout le fond de son discours quand il était à Utah, tu sais, quand on disait ouais, il est, des gens pouvaient dire qu'ils comprenaient pas que Rudy Gobert ait un aussi faible impact en attaque. En fait, il avait un fort impact en attaque parce qu'en fait, le danger qu'il représentait malgré tout sur pick and roll en piquant, en roulant, en cercle était tellement grand qu'il impactait la manière dont la défense adverse allait se positionner. Mais ça, si tu le vois pas à l'œil nu, en fait, si tu connais pas un petit peu le sport précisément, effectivement, plus il y a de gens qui viennent s'intéresser au match ou au basket pour des raisons externes au jeu en lui-même, comme tu le disais tout à l'heure, Shai, je pense, plus il va y avoir des gens qui comprennent pas du tout l'importance ou l'impact que peut avoir Rudy vraiment. Et même, on l'avait vu, même il n'y a pas qu'en NBA, on l'avait vu avec l'équipe de France, même sur certaines campagnes où Rudy se faisait un petit peu laminer dans les commentaires, et puis nous on en parle entre nous, se dire ben on comprend pas trop, enfin il y a des problèmes peut-être en équipe de France, mais pas comprendre vraiment pourquoi c'était, en quoi c'était Rudy qui était problématique. Notamment, je repense à l'Euro où il a été assez fantastique, même si voilà, je me rappelle de paniers ratés, de choses comme ça, mais où défensivement il nous a quasiment permis de sortir du piège contre la Turquie. Je sais pas si tu te rappelles de ce match là Shai, où sans Rudy Gobert jamais de la vie on passe ce match là quoi, et derrière on finit par faire une médaille d'argent. Tu te dis, mais sans un joueur comme Rudy Gobert, jamais cette équipe de France n'aurait pu aller aussi loin.
Bien sûr, mais c'est très difficile à expliquer. Le cas de Rudy, il est fascinant, et à la fois il est c'est déroutant, et j'imagine pour lui. Enfin, c'est au niveau de, enfin au niveau personnel, on sait, enfin genre, on sait que ça tout ça l'affecte, l'a affecté. Il est, même en grandissant dans sa carrière, je pense qu'il a appris un peu mieux à gérer. Il y a eu des orages qu'il a dû apprendre à qu'il a dû gérer. C'est très difficile à comprendre, parce que moi, parfois, quand et depuis le début de l'année, j'ai pas arrêté. Si vous regardez les CQFR, je pense que la plupart d'entre vous ont dû se dire, mais c'est quoi, c'est son pote Rudy Gobert ou quoi? Quel est son intérêt à dire qu'il est déjà lancé vers le titre de Defensive Player of the Year, qu'il est traité injustement par les médias américains, français? Moi, j'ai ce sentiment-là. C'est pas mon pote. C'est même pas le joueur que je préfère voir jouer sur un terrain. Je veux dire, peu importe. Mais par contre, Je trouve effectivement que la perception des gens ne me semble pas bonne. En tout cas, les reproches qui lui sont faits à plein d'endroits me semblent injustifiés. C'est très personnel, mais et pourtant, j'ai justement pas la prétention d'avoir le meilleur œil sur les choses imperceptibles du basket qui font qu'un joueur est ultra précieux. De base, je suis un fan vraiment lambda qui regardait d'abord le NBA petit pour les choses spectaculaires. Rudy n'est pas, par essence, un joueur spectaculaire, mais moi, j'ai appris avec les années à aimer ce genre de joueurs, à, je pense, comprendre leur impact en attaque et en défense. Tu le disais, en attaque, il est toujours dans les leaders des screen assists, enfin qui libèrent la place pour les autres. Il est ultra important. Joe Ingles disait que, quand ils étaient ensemble à Utah, il disait qu'il y a des équipes dont l'objectif principal, quand ils défendaient contre le Jazz, c'était d'éloigner Rudy de la peinture, et qu'en ça en faisait une arme exceptionnelle pour le Jazz, sans même qu'il ait besoin de toucher la balle près du cercle. Donc, oui, moi, globalement, je trouve que c'est un joueur qui est mésestimé. Les gens pourront parler de son contrat. C'est pas lui qui a décidé, qui a demandé, qui a dit je veux que cette équipe mette tant. C'est pas lui qui a décidé qu'il fallait que Minnesota fasse ce trade-là spécifiquement. Il a sa valeur. Je pense qu'elle est un peu, même encore aujourd'hui, un peu sous-estimée en NBA et même peut-être en équipe de France. Ça c'est autre chose, mais voilà.
Ouais, bah écoute, je te propose que tu parlais de la course au trophée de meilleur défenseur de l'année. On peut peut-être partir de là pour ensuite parler de l'image de Rudy Gobert. Comme tu l'as dit, je pense qu'à l'heure actuelle, enfin, il reste encore pas mal de matchs à jouer, mais je pense qu'il est le grand favori pour remporter à nouveau ce trophée. Pour mémoire, il l'a déjà remporté 3 fois. S'il le remportait à nouveau cette année, il rentrerait dans un club extrêmement fermé, puisqu'il n'y a que 2 joueurs avant lui qui ont déjà gagné à 4 reprises le trophée de meilleur défenseur de l'année. Ben Wallace avec les Pistons et Dikembe Mutombo, l'illustre contreur que l'on connaît. Donc il serait vraiment dans un club ultra ultra fermé. Est-ce que toi tu vois d'autres joueurs en étant réaliste qui pourraient venir lui contester ce trophée cette année?
Ouais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis quasiment la barre des 20 matchs dans la saison, pour moi, il est vraiment favori parce que l'impact qu'il a est gigantesque. Donc oui, il y a d'autres joueurs dont le travail défensif est admirable, mais aucun, à mon sens, qui a cet impact-là, individuel et collectif, sur son équipe. Alors on peut citer, oui, il y a des joueurs qui sont... on parlait des paris et des cotes. Si vous allez regarder les cotes à Vegas, vous verrez qu'il y a du Anthony Davis, Bam Adebayo, enfin des joueurs qui mériteraient même d'en avoir un au cours de leur carrière. Bam Adebayo, c'est un défenseur fantastique, pourrait être dans la discussion avec le Heat, mais ça reste un impact, à mon sens, un peu inférieur cette année en tout cas, que ce que Rudy a sur les Wolves. Il y a Victor Wembanyama aussi. Alors c'est un sujet clivant au niveau de ce trophée, parce que absolument tout le monde voit l'impact défensif gigantesque qu'il a quand il est sur le terrain. Je crois qu'on en parlait avec Antoine l'autre jour, quand Victor est sur le terrain, sur le defensive rating, ils sont cinquièmes de la ligue, alors qu'ils ont la 27e défense sans ça. Donc il a une candidature qui est un peu particulière, parce que son équipe est très très loin, mais lui est fort. Mais moi, je ne le mettrais pas personnellement, ne serait-ce que dans la All-NBA All-Defensive Team. Même Draymond Green, qui en parlait dans son podcast l'autre jour, et justement, c'est intéressant parce qu'il parlait aussi de Rudy, indirectement, même si ce n'est pas quelqu'un qui porte dans son cœur, ça s'est transformé en compliment. Il disait que Victor est un défenseur déjà fantastique, avec des stats exceptionnelles, mais qu'il ne pouvait pas le considérer dans les candidats parce que justement, les stats des Spurs et les classements des Spurs étaient insuffisants. Et que même dans une année où il n'y aurait pas eu quelqu'un qui faisait une saison comme Rudy, il l'a cité, il a dit ça sur Rudy, il n'aurait pas voté Wembanyama. Donc même pour Draymond Green, Rudy est numéro un des prétendants, et ça me semble vraiment, vraiment logique.
Oui, c'est clair, parmi les prétendants, je sais pas si t'as cité Anthony Davis, pardon, j'ai
Ouais, j'ai
entendu,
cité
ouais,
Anthony.
bien sûr, voilà, qui me semble peut-être être le principal, sinon pouvoir lui contester ce titre. Non, mais je suis totalement d'accord. Ce qui est impressionnant avec Rudy, je trouve, c'est, enfin, on peut regarder ses stats individuelles, mais c'est l'impact défensif qu'il a sur toute son équipe. Je veux dire, avant son arrivée, je venais de regarder la saison avant son arrivée aux Wolves. Les Wolves étaient 13e au defensive rating dans la ligue, donc à peine mieux que la moyenne en gros des équipes NBA. L'an dernier, ils étaient 10e et là, ils sont tout simplement premiers. Et c'est le premier truc qui nous a sauté aux yeux dès le début de la saison avec cette équipe. Je sais pas ce que tu en penses, Chai, c'est l'implication défensive de tout le monde. Et en fait, cette implication défensive, elle est possible parce que il y a derrière Rudy Gobert pour assurer les arrières de tout le monde. Ça permet à l'ensemble de l'équipe d'être de plus en plus agressive parce qu'il y a Rudy qui a cette capacité à venir défendre près du cercle, à venir même sortir sur les extérieurs. Il a vraiment une mobilité qui est assez phénoménale pour sa taille. Et son impact, il est diffus sur toute cette équipe. L'an dernier, on a été extrêmement critique, je pense, tous les trois, même avec Antoine, sur le fait, en se disant non, mais ça peut pas marcher, les Wolves avec Kat et Gobert, ça fonctionne pas. En tout cas, l'an dernier, ça fonctionnait pas aussi bien que les Wolves espéraient. On avait vu que ça commençait à mieux marcher en playoff. Je reviens sur cette série face aux Nuggets que j'avais trouvé vraiment hyper intéressante. Et là, cette année, force est de reconnaître que Chris Finch a trouvé le moyen de faire fonctionner tout ça à plein régime. Mais je pense que c'est quand même en grande partie grâce à l'impact défensif de Rudy Gobert et du fait que l'équipe ait pu se reconstruire une identité défensive autour de Rudy.
C'est exactement ça. Il a l'impact collectif, c'est-à-dire que tous les mecs autour de lui le disent, Anthony Edwards, McDaniels, même Conley, qui connaît forcément très bien, mais tout le monde dit que c'est le point d'ancrage, que c'est un mec qui compense pour les autres et qui en même temps inspire les autres de ce point de vue-là. Et là, on parle de la course du DPOY, donc on parle que de cette saison, hein, mais depuis le début de sa carrière, quasiment depuis qu'il a un rôle régulier avec le Jazz, c'est sa qualité principale, c'est ça, c'est d'être un point d'ancrage et une sorte de général de défense, quelque part. Et cette année, il le fait encore. C'est-à-dire qu'il y a l'impact collectif où on voit bien que les Wolves sont la meilleure défense ou une des meilleures défenses de la ligue. Et individuellement, même moi, je le trouvais, et lui-même en avait parlé en début de saison, je le trouvais même dans sa défense à lui encore plus fort. Il allait beaucoup plus chercher au large, il se sentait plus à l'aise là-dessus. C'était pas que un protecteur de cercle comme on a parfois pu le décrire. Ok, très fort dans la dissuasion, mais après, sur le reste, dans une série play-off, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Voilà, moi, avec les Wolves, je le vois être. En sortant au large, je le vois bon près du cercle, je le vois bon dans la communication, je le vois beaucoup plus parler aux gens. Il recherche les interactions avec Anthony Edwards, alors que l'année dernière, il y avait une forme de méfiance un peu entre les deux, et ils ne s'en sont pas cachés. Anthony Edwards avait tenu des propos sur Rudy avant qu'il soit coéquipier, en disant que ouais, bon, c'était pas le défenseur le plus impressionnant qu'ils connaissent, bon, etc. Il y a tout dans cette là, la candidature, elle me paraît évidente au-delà de tout chauvinisme. Je le trouve incroyable et quasiment au meilleur. C'est quasiment sa meilleure saison défensive, je trouve, même si peut-être que les stats n'appuient pas ce que je viens de dire. Avec Utah, c'était fort. Là, je le trouve que autant individuellement que dans l'expression collective qu'il arrive à faire obtenir aux Wolves, c'est pour moi, il y a même pas de suspense. Pour moi, il devrait même pas y avoir de suspense. Et je suis curieux de voir ce que donneront les votes dans quelques semaines à ce sujet. Je trouve qu'il se détache largement et qu'il mérite de gagner ce quatrième titre de défenseur de l'année, ce qui est incroyable à imaginer. Enfin, tu t'imagines à l'époque où il arrive en NBA, donc c'était un joueur très prometteur. Hein, je veux dire, c'est un excellent jeune joueur du championnat de France. Il a fait des All-Star Games français, tout ça. Mais t'imagines si on nous avait dit ce mec-là, il va avoir autant de titres de meilleur défenseur de l'année que Ben Wallace et Dikembe Mutombo, qui sont des monstres absolus, qui sont des Hall of Famers. Et ça, c'est une autre question à se poser sur Rudy, qu'on se posera un moment, sur le Hall of Fame. C'est des Hall of Famers. Tu rends compte le chemin parcouru par le gars et le niveau qu'il a aujourd'hui, je trouve ça impressionnant.
Mais je partage ton avis. Et voilà, ce dont on ne se rend plus très compte maintenant, aujourd'hui, parce qu'on est habitué à voir Rudy à ce niveau-là, mais il faut se rappeler que c'est un joueur qui n'a pas été appris à l'INSEP, par exemple, après avoir fait les sélections pour l'INSEP. C'est un joueur à qui on a dit systématiquement depuis qu'il a commencé, t'es bon, mais ton plafond, ça va être là. Et qui, systématiquement, a éclaté le plafond qu'on lui avait donné. C'est assez étonnant parce que je trouve qu'effectivement, l'image qu'il renvoie et la personnalité qu'il est au fond de lui sont très différentes l'une de l'autre. Et qu'on... Souvent, tu sais, mais c'est aussi sa manière de s'exprimer. Il est très calme, très posé, un ton même un peu blasé, alors que c'est un énorme compétiteur. C'est un énorme compétiteur qui n'a cessé depuis de se fixer des objectifs. Et systématiquement, il n'a pas encore gagné de titre NBA, on est d'accord, mais il a quasiment toujours atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Il continue à chercher d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Et oui, t'as raison, personne, mais c'est même pas que personne n'aurait parié sur le fait qu'il atteigne ce niveau-là, c'est que personne n'a parié sur le fait qu'il ne soit, ne serait-ce que je veux dire, qu'il n'est même, tu vois, je veux dire, à l'époque, on n'imaginait même pas qu'il aurait ce rôle-là en Europe, en fait, qu'il ferait cette carrière-là en Europe. C'est, voilà, son parcours est assez fou. Je vais vous donner ses stats quand même pour cette saison. Donc Rudy Gobert, cette année, c'est 13,8 points à presque 65% de réussite, 13 rebonds, en gros, 12,9 rebonds, 2,1 contre par match et 1,2 passes. Bon, voilà, ça c'est pas trop son registre. Mais en fait, il est toujours dans la lignée de ce qu'il fait depuis presque 7-8 ans maintenant. En gros, aux alentours de 14 points, presque 13 rebonds, des contres, un pourcentage de réussite qui est entre 65 et 70% quasiment tous les ans. C'est... voilà, il est exceptionnel. Et en fait, je pense que ce qui joue aussi, effectivement, je trouve que le trophée de défenseur de l'année, il est vraiment très compliqué à quantifier. Il y a une partie de subjectivité qui vient aussi se mêler aux stats, parce que même les stats, en fait, la manière dont tu vas prioriser certaines par rapport à d'autres, il y a un aspect subjectif. Je pense malgré tout que l'excellente saison des Wolves joue aussi en sa faveur. Voilà, on sait que s'il y a une saison qui était une équipe qui n'était pas forcément très bonne une année et qu'elle explose l'année d'après, c'est le coach est quasiment sûr de prendre le trophée de coach de l'année, sans forcément que ça veuille dire que c'est le meilleur entraîneur de l'année. C'est pas finalement le trophée récompense pas toujours tout à fait ça. Et là, je pense que tout est aligné quand même pour l'instant, sauf raz-de-marée ou chose vraiment totalement imprévisible. Je pense que tout est réuni pour qu'il soit effectivement à nouveau défenseur player of the year.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que les critères sont pas toujours faciles. Est-ce que tu dois prendre un arrière, quelqu'un qui défend mieux sur l'homme au périmètre? Enfin, tu peux tout mettre dans ce trophée. Juste le critère de l'équipe qui a les meilleurs stats défensives, donc en l'occurrence Minnesota, c'est toujours dans les deux meilleurs, quels que soient les repères statistiques que tu prends, c'est toujours l'une des meilleures défenses. Et que tu prends le mec qui unanimement est responsable de cette hausse de niveau défensif, ça me paraît être un critère suffisant. Après, on peut dire intrinsèquement, est-ce que c'est pas Jrue Holiday, partout où il passe, il rend les défenses meilleures? Oui. Après, est-ce que Boston est la meilleure défense de la NBA pour l'instant? Non, et c'est une des meilleures, mais c'est pas la meilleure. Donc sa candidature me paraît évidente. Et tu parlais du parcours et du fait que personne croyait en lui. Je repense encore à. Alors, tu vas dire que c'est parce que je suis fan de Joe Ingles, mais j'avais adoré son interview chez JJ Redick il y a 2 ans. Je crois qu'ils étaient encore coéquipiers avec Rudy. Et il disait oui, vous me parlez de travail et tout, mais les gens qui pensent qu'il n'est pas talentueux. Ne regarde pas le sport qu'il croit regarder, quoi. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas du basket ou ils connaissent absolument rien au basket. Et il parlait du coup à côté de ça du fait qu'il comprenait pas le manque de respect qu'il y avait. Il avait dit je tombe tout le temps, tous les soirs après les matchs, je tombe sur des tweets sur des stats qui montrent son impact défensif. Et c'est totalement surnaturel pour moi, c'est même pas concevable l'impact qu'il a défensivement sur ce qu'on fait. Et il disait même je remercie tout le temps Rudy parce que lui estime être un défenseur médiocre. Alors Kingles, dans ses bonnes années, c'était plutôt pas mal dans son registre, c'était plutôt un bon défenseur. Il disait, mais c'est lui qui m'a donné une carrière et une réputation de mec qui défend bien. Et c'est lui qui nous a donné au Jazz l'étiquette de bonne équipe défensive, parce que sans lui, on vaut pas la même chose. Quoi.
Ouais, c'est bien résumé, en fait. C'est pour ça que l'excellente saison des Wolves joue vraiment en sa faveur. Et tu l'as dit tout à l'heure, finalement, le fait que les Wolves se soient saignés, je vais le dire quand même, au-delà du raisonnable, pour faire venir Rudy Gobert, c'est pas... Il n'est pas responsable de ça, en fait. De la même manière qu'au bout d'un moment, tu peux reprocher autant que tu veux à Ben Simmons de gagner autant d'argent chaque année. Personne n'a mis un... Ce n'est pas Ben Simmons qui a été mettre un pistolet sur la tempe du GM des Sixers pour lui dire donne-moi mon argent, en fait. Donc, c'est ça que je trouve dur parfois, tu sais, quand on parle de effectivement, la manière dont on évalue les joueurs et quand le contrat rentre en ligne de compte ou la monnaie d'échange, dans le cas de Rudy Gobert. C'est vraiment, ouais. Tu dis, mais ça peut pas être à charge contre le joueur, en fait. Ça peut être à charge contre le club, contre la franchise, contre le GM qui a signé, contre le coach qui a été d'accord pour faire venir tel ou tel joueur ou choisir tel ou tel joueur plutôt qu'un autre. Hein, on se rappelle de Jimmy Butler hurlant Tobias Harris over me après avoir tapé les Sixers. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, je ne comprends pas que ça puisse être maintenu au-dessus de la tête des joueurs. Et quand je vois tout ce qui a été dit l'an dernier sur les Wolves, et nous les premiers, hein, et sur le fait que ce trade semblait absurde, et leur bon résultat cette année, ça ne veut pas dire, je pense, que ça justifie tous les aspects du trade qui avait été mis en place. Par contre, d'un point de vue à court terme, d'un point de vue sportif, voilà, ça redore quand même le blason de l'équipe, et je trouve que ça devrait aussi redorer celui de Rudy, quelque part.
Ils sont en train de faire, c'est quoi, j'ai plus les bilans des années Garnett en tête, mais ils sont sur les bases de leur meilleure saison all-time, je pense, hein, en saison régulière. Donc après, la vérité, ce sera en play-off. Si les Wolves se plantent totalement au premier tour, les gens réanalyseront en disant « bah voilà, c'était bien, c'était sympa de performer en saison régulière, mais le trade de Gobert et le reste était effectivement surévalué et ça a donné ça en définitive. » Là, pour l'instant, on est obligé d'analyser froidement ce qui s'est passé cette année et c'est juste excellent. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est intéressante à voir jouer sur le plan du basket, qui est très performante, qui défend fort, qui a des arguments avec un jeune joueur qui est en train d'exploser, Anthony Edwards. Donc il y a des vrais arguments qui permettent de dire bah on s'est peut-être trompé, finalement le trade était un peu surévalué par rapport à ce qui a été envoyé, mais ça, est-ce que la fin on justifiait pas les moyens, on verra. En tout cas pour Rudy, c'est quand même je trouve ça top que après la saison dernière où il était évidemment la cible de plein de critiques, surtout aux États-Unis, hein, notamment après le trade, et plein de journalistes et d'émissions que j'aime beaucoup. Hein, je veux dire, j'écoutais Bill Simmons à chaque fois il remettait le trade de Rudy Gobert sur la table en disant que c'était pas un joueur qui valait ça et que en playoff c'était même pas un top 50 quoi, tu vois, de la ligue. Donc là, je suis content qu'au moins il y ait pour l'instant, en attendant qu'on voit ce qui se passe en fin de saison, qui est cette super campagne pour lui à titre individuel et à titre collectif pour les Wolves, parce que je vais me hasarder à dire ça et à penser ça, on dira peut-être que je suis peut-être partial encore, mais je pense que s'il va chercher le quatrième titre de DPOY, il n'y a même pas de suspense, il ne devrait même pas y avoir de suspense sur sa future entrée au Hall of Fame, sinon ça me paraîtrait un scandale s'il n'y est pas, et il aura le droit de se plaindre après s'il n'y est pas, parce que les deux seuls autres qui l'ont fait, qui ont gagné quatre titres de DPOY, ont été introduits au Hall of Fame après.
Oui, c'est clair. Et effectivement, alors Ben Wallace, il se trouve qu'il a en plus gagné un titre NBA avec les Pistons, mais ce n'est pas le cas de Dikembe Mutombo, par exemple. Et tu parlais tout à l'heure des saisons historiques des Wolves, et ce n'est pas simplement qu'ils sont sur les traces des meilleures saisons avec une Garnett, ils sont simplement sur les traces de la meilleure saison avec des Wolves avec Garnett. Donc pour l'instant, là, les Wolves sont en train de réaliser la deuxième meilleure saison de leur histoire. Ils sont à 67% de victoire. La seule meilleure année, c'était il y a pile 20 ans, saison 2003-2004. 2004, où les Wolves avaient fini avec 58 victoires pour 24 défaites, et ils avaient poussé jusqu'au final de conférence, voilà, où ils étaient tombés face aux Lakers, qui ensuite justement ont perdu contre les Pistons de Ben Wallace. Donc on est vraiment sur ces marches-là, et quand on regarde, alors c'est une stat parmi tant d'autres, mais Rudy Gobert est premier à la stat des win share de l'équipe, oui. C'est Rudy Gobert qui est le premier de ces Wolves. Et oui, je rebondis à nouveau sur le FEM, t'en parlais. C'était là aussi, il a été moqué il y a quelques semaines. Il avait Rudy Gobert. C'était au moment du All Star Game, je crois. Il a sorti une quote où il parlait du Hall of Fame. Je sais pas si tu l'as sous les yeux, Shai.
Ouais. Il avait dit. Personnellement, je place pas trop d'attente quand il s'agit du All Star Game. C'est pas la première fois que je suis pris pour acquis ou qu'on me manque de respect à ce propos. Je suis dans cette ligue depuis longtemps. Je sais comment ça marche et au final, je suis content. Ça me fait un peu de vacances. Meilleur défenseur du monde, première à l'Ouest, meilleure défense de la Ligue, je peux aller à la plage pendant le Star Weekend. Après, je sais plus qui lui avait posé la question, mais il avait dit « t'as pas à te sentir mal pour moi ». Lors de mon discours à mon entrée au Hall of Fame, je pourrais faire des blagues sur toutes les fois où j'ai pu me reposer, car j'ai été snobé pour le All-Star Game. C'était au micro de Dane Moore. Voilà,
c'est ça. Et alors, c'était assez marrant, parce qu'on avait partagé cette quote de Rudy, et puis... Ouais. Là encore, il y avait pas mal de gens qui avaient l'air de douter du fait que Rudy Gobert serait un jour au Hall of Fame. Moi, ça me... A fortiori, là, raison de plus, si cette année il remporte le trophée de meilleur défenseur de l'année, j'ai vraiment du mal à voir comment il ne pourrait pas finir au Hall of Fame, sachant qu'il reste encore pas mal d'années.
Moi, bêtement, si je prends on prend la comparaison avec d'autres joueurs qui y sont entrés, tu prends avec des profils similaires, hein, je dis pas même pas. Tu prends Sidney Moncrief, par exemple. Il a gagné 2 titres de défenseur de l'année, c'est un des meilleurs de sa génération en défensivement. Il a 0 titre et il a déjà moins de titres de meilleur défenseur de l'année que Rudy. Il est entré au Hall of Fame. Rudy, c'est-à-dire qu'il coche la case accomplissement individuel incroyable, parce que voilà, il n'y a que deux autres mecs dans l'histoire de la Ligue qui ont fait ce qui, je l'espère, j'espère pas lui porter la poisse, mais qui ont fait ce qui s'apprête à accomplir. Et ils sont entrés au Hall of Fame. Donc il a aussi, et le côté fame, le côté célébrité, il l'a aussi parce que pour des bonnes et comme des moins agréables raisons, il est extrêmement connu à son époque. C'est un joueur international. Il a apporté, il a fait rayonner aussi le basket français en NBA. Faut pas le nier. Et la France est un des plus gros pourvoyeurs maintenant de joueurs de basket en NBA. Donc voilà, moi, s'il a besoin que j'aille appuyer sa candidature auprès du comité du Springfield Hall of Fame, je trouve que les arguments sont. Alors, on peut dire, est-ce que c'est le meilleur à ce moment-là, telle période, tel machin, mais le Hall of Fame, c'est pas que... on peut considérer que le Hall of Fame a été un peu trop ouvert par instant, même moi, je l'ai pensé, mais Rudy me paraît... Enfin, prends compte, 4 titres de défenseur de l'année, et il n'irait pas, alors que d'autres ont moins, et 0 titre aussi, et sa carrière n'est pas terminée, il a quoi, 32, Rudy, là
enfin... Oui, quelque chose... Attends, je vais te dire ça. Je pense qu'il n'a pas plus que ça, en tout cas. Rudy, il est de
31 ou 32, je pense.
31, ouais, 31. Ouais. Il va avoir 32 ans dans quelques semaines. Ouais.
Ok. Donc voilà, après, peut-être que en commentaire, vous pouvez nous dire non, moi je pense qu'il ne devrait pas y être parce que telle ou telle raison, parce qu'il n'a jamais gagné de titre, parce qu'il n'a jamais fait de finale NBA. Ça s'entend, mais ce ne sont pas les seuls critères pour le Hall of Fame. Il faut aussi des accomplissements individuels, quelque chose qui a apporté, qui t'a mis en lumière à un moment, qui t'a fait rayonner en NBA. Désolé, voilà, ça fait partie des critères selon moi et il les remplit largement.
Mais tu sais, il y a autre chose avec Rudy, c'est que je pense qu'il fait partie de ces joueurs dont les lacunes sont tellement criantes qu'elles font perdre de vue les qualités en fait. Et, moi, je me rappelle très bien de ça avec Russell Westbrook par exemple, où effectivement, je vais pas nier en fait, il y a tout un tas de choses que Russell Westbrook ne faisait pas bien, gestion de balle dans les dernières possessions, ce genre de choses, tout ce qu'on lui reproche globalement en fait, de ne savoir jouer que d'une seule manière. Mais il y a un moment, tes lacunes ne peuvent pas éclipser totalement tout ce que tu fais de positif. Et finalement, je vais faire ce parallèle avec Russell Westbrook, où à un moment, ce qu'on lui reprochait de ne pas avoir, ça faisait oublier que tout ce qu'il apportait de l'autre côté à son équipe permettait à son équipe d'être compétitrice. Et tu sais, on en a parlé souvent avec Antoine, en disant que finalement, il y a différents types de franchise players. Il y a ceux qui te permettent de franchise players, ou du moins de joueurs d'impact, ceux qui te permettent de prendre une équipe faible et d'en faire une équipe qui va être compétitive au point de pouvoir faire les playoffs quasiment tous les ans si tu les as dans ton effectif. Je pense à Russell Westbrook par exemple. Et ceux qui vont te permettre d'avoir une équipe qui est peut-être à ce niveau-là bonne et d'en faire en gros un contender au titre tous les ans. C'est pas forcément exactement les mêmes profils, tu vois. C'est-à-dire que je pense que si tu mets Draymond Green dans une équipe faible, je suis pas sûr que ça te permette d'être compétitif. Par contre, tu mets Draymond Green dans une équipe qui est déjà bonne, Là, je pense que tu peux jouer le titre. Et à l'inverse, Rudy Gobert a encore le temps de nous montrer. Mais je pense qu'un mec comme Rudy ou un mec comme Rudy comme Russell Westbrook, tu les mets dans une équipe même faible, ça te donne des fondations suffisantes pour construire autour un groupe qui va être compétitif. Alors compétitif jusqu'où ? Ça dépend du personnel qu'il y a autour, ça va dépendre de la manière dont l'équipe est coachée, mais en tout cas ça te donne déjà une base solide pour pouvoir construire. Et voilà, dans le cas pour Russell, malheureusement ou heureusement, peu importe, mais je pense qu'on sait maintenant quel était son type quel type de franchise player il a pu être. Pour Rudy, il reste encore un petit peu de temps pour voir s'il peut être les deux, je sais pas. En tout cas, moi je le vois quand même comme ça.
On l'a vu, t'as raison. Enfin, pour Westbrook, on l'a vu avec OKC après le départ de Durant. On l'a vu même à Washington sur une saison. Il les a qualifiés en playoff. C'était le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, t'as raison. Et Rudy, par sa simple présence, tu sais que c'est une one-man defense. C'est-à-dire qu'il te, sa simple présence bonifie tout automatiquement le reste parce qu'il se soucie de la chose défensive. Il va jamais être relâché en défense. Il va essayer absolument de, autant il peut, ça, il donne l'image d'un garçon un peu timide, peut-être. Enfin, pas timide, surtout qu'il a beaucoup avec les années, il est beaucoup plus à l'aise, mais peut-être un peu réservé, mais sur le terrain je le trouve totalement à l'aise dans sa communication de leader défensif, et là-dessus il est impeccable. Sur le Hall of Fame, pour finir dessus, je vois pas pourquoi il y entrerait pas, et il lui reste des années pour donner encore plus de crédit à sa candidature.
Oui, alors finalement, la question, c'est peut-être celle de, on avait teasé un petit peu en disant qu'on l'aborderait, c'est celle de l'image, finalement, l'image qu'il renvoie, l'image que les gens se font de lui, l'image qui peut être la sienne aux États-Unis ou en France, qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. Je ne sais pas, comment tu perçois, toi, l'image que les gens, globalement, ont de Rudy Gobert ?
C'est très compliqué parce que, je prends l'exemple des États-Unis, parce qu'en France, ça me semble souvent un peu limité à... il n'a pas de jeu offensif et en gros c'est pas un clutch player, j'en sais rien. Enfin, sur les campagnes en équipe de France, j'ai l'impression que les critiques s'étaient un peu tournées là-dessus, pas tellement sur la personnalité, alors qu'aux États-Unis ils sont vachement attachés à la personnalité, à l'image, au caractère, et il est beaucoup critiqué là-dessus. Il y a évidemment l'épisode du Covid, mais où il a été le bouc émissaire parce qu'il a fait une connerie et les médias ont donné l'impression que c'était lui qui avait ramené le Covid aux États-Unis et qui avait contaminé la planète entière, ce qui n'était pas le cas. Il a lui-même dit qu'il avait fait une connerie, c'était pas malin, mais c'est pas non plus, c'était pas si grave que ça. Okay.
Tu peux rappeler peut-être pour ceux qui auraient oublié.
On aimerait bien tous oublier cette période-là. Mais il était arrivé devant les micros, on était au tout début de la pandémie, les matchs, la saison n'avait pas encore été arrêtée, et il était arrivé en conférence de presse. Il avait touché les micros en moquant un peu le côté contagieux de l'épidémie qui arrivait, et puis il s'avérait que derrière...
Parce que les journalistes, en fait, avaient posé... Tous les micros des journalistes étaient posés sur le bureau devant lui, et par mesure de sécurité, les journalistes étaient genre 1 mètre, 2 mètres ou 2 mètres 50 éloignés de leur micro, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc pour la blague, il avait touché en disant « bon, bah voilà ». Et il s'avérait que derrière, il y a eu des cas au Jazz, et que c'est un peu parti de là, mais c'est... C'était même pas, il y a zéro preuve que c'était le patient zéro. Enfin, quand il repense, c'est ridicule. Et les gens se sont déchaînés, les gens, même les médias se sont déchaînés sur lui, aux États-Unis comme en France d'ailleurs. Et ça a contribué au truc, mais ça avait commencé avant. C'est-à-dire que c'est pas ça. Les gens peuvent se dire, ah bah, c'est parce que c'est le gars du Covid. Mais moi, le truc qui m'avait le plus frappé, je pense, c'était avant qu'il soit All-Star pour la première fois. Donc, je pense que c'était la saison d'avant, donc je dirais 2019. Tu me diras si je me trompe. Tu sais, il l'avait interrogé après un match sur le fait qu'il n'avait pas été sélectionné au All-Star Game alors qu'il avait fait une excellente saison. Et sous le coup de l'émotion, il avait retenu des sanglots, il s'était mis à pleurer un peu. Enfin, il s'était caché le visage pour ne pas montrer qu'il commençait à pleurer. Et derrière le backlash a été incroyable. Enfin, des joueurs se sont mis à le décrire comme soft, des journalistes se sont mis à le décrire comme soft. Et c'est parti de là un peu, j'ai l'impression. Tu vois, cette image qu'il a eue alors que... Enfin, ce qui m'avait semblé fou, c'est que les Américains adorent, ils demandent souvent aux joueurs de se soucier des matchs. Tu vois, ils disaient, je veux qu'ils care à propos de ça. Tu vois, ils adorent dire ça. Les meilleurs joueurs, c'est ceux qui care about something. Tu vois, et à chaque fois, ils sont là-dessus. On veut les joueurs qui se soucient du basket, qui s'arrêtent jamais, Mamba mentality limite. Tu vois, et ils ont critiqué un mec qui se souciait même d'une sélection All-Star Game, qui pour lui c'était extrêmement important. Il le disait après, il dit pour la legacy, pour l'héritage que tu laisses, c'est important pour moi d'être All-Star au moins une fois dans ma vie. il avait été ému. On ne sait pas, d'après, on ne sait pas dans quel contexte il avait reçu cette nouvelle. Donc, on ne sait pas dans sa vie ce qui se passait, peu importe. Et derrière, il a gardé, même encore aujourd'hui, l'image d'un mec soft qui se plaint, qui se victimise. Et je trouve ça fou. Pour moi, on était sur limite sur du virilisme pourri des Américains qui se disaient ah bah il pleure donc il est soft, alors que il pleurait parce qu'il se souciait de la situation et qui sont tout de suite et ils sont en général prompts à encenser des mecs qui pleurent parce qu'ils vivent mal une défaite et que c'est comme ça qu'il faut être vulnérable. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que ça faisait un peu deux poids. De poids de mesure et j'avais pas aimé cet épisode-là et ça a été le point de départ, j'ai l'impression, moi.
Je pense que t'as raison et c'est vrai que c'est ce paradoxe qui est fou parce que d'un côté t'as un mec comme Rudy à qui on va reprocher de montrer ses émotions s'il est pas pris pour le All-Star Game et de l'autre côté, tu sais, j'ai cette anecdote assez folle qui concerne Boris Diaw quand il était à Charlotte et où son coach c'est Paul Silas de mémoire qui lui dit à un moment en pensant pouvoir le motiver mais t'as pas envie de en gros il reprochait à Boris de pas assez scorer de pas assez vouloir scorer en tout cas ce qui était un reproche qui lui était fait toute sa carrière et pour essayer de le motiver il dit mais regarde là si tu marquais un peu plus regarde t'as pas envie d'être All-Star. Et Boris qui lui dit « pas vraiment ». Tu sais, ce truc qui est resté à jamais. Où les Américains, enfin les Américains, bien sûr, je généralise énormément, mais c'est quelque chose qui est incompréhensible dans leur société, je pense, et dans leur manière de concevoir le sport et la compétition. Quoi.
Alors qu'on ne peut pas reprocher à Rudy de ne pas se soucier des récompenses individuelles, des accomplissements collectifs. Et il a cette image-là, je sais pas si c'est... Je me suis posé souvent la question parce que... C'est-à-dire qu'il a tout de suite très bien parlé anglais, donc je ne sais pas s'il a été tout de suite assimilé comme un étranger ou pas. Les Américains, on sait comment ils sont tout de suite, c'est très protectionniste, très. Et je ne sais pas si c'est ses origines, c'est le fait qu'il soit français, le fait qu'il se plaigne de ne pas être considéré, qu'il ne reste pas juste à sa place en disant oh, je suis bien content d'être en NBA déjà, c'est pas grave si vous ne me reconnaissez pas, tu vois, l'Européen bien docile en gros. Ou si c'est... parce que, je veux dire, sur le terrain, il s'embrouille pas... on le voit pas spécialement trash-talker, on le voit pas... Il fait pas des fautes ultra dirty, enfin... Tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai du mal à saisir ça, et c'est quelque chose... je sais que c'est un sujet pas évident pour lui, c'est pas un sujet qu'il aime généralement aborder quand c'est évoqué, et c'est un peu un mystère. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Américains... est-ce qu'ils lui donnent cette étiquette-là de mec qui se plaint tout le temps, de... Alors que pour moi, il a juste... Et je pense qu'il avait raison quasiment à chaque fois. En plus, je pense que cette saison-là, il aurait dû être All-Star. Je pense que cette année, à nouveau, il aurait dû être All-Star et il en plaisante. Et je pense qu'il doit être Hall of Fame. Donc, quand il dit j'en rigolerai quand je serai Hall of Fame, bah, il a raison, en fait. Encore une fois, je le défends de ce point de vue-là. Alors là où je peux lui... Où je me dis qu'il aurait peut-être dû faire différemment s'il avait voulu éviter toutes ces choses-là, c'est que c'est peut-être en termes de communication, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment... Tout au début de sa carrière, il était très, très réservé. Il disait pas vraiment un mot plus haut que l'autre, et je pense que c'était une forme de. Il était en période d'adaptation. C'était une forme aussi pour se protéger. Et petit à petit, quand il a commencé à essayer de parler, c'est comme les gens réservés. Dès qu'ils commencent à parler, comme les mecs qui s'énervent quand ils s'énervent jamais, bah ça sort beaucoup vite et parfois de façon peut-être maladroite ou c'est pas perçu comme ça pourrait l'être, comme ça. Enfin, le but n'était pas celui-là. Et du coup, ça chagrine, ça heurte des gens qui comprennent mal le message aussi, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est très particulier.
C'est vrai que sur la communication, c'est très particulier parce qu'effectivement, bon, bah, Rudy, nous, on a eu, en gros, on a suivi toute sa carrière depuis ses débuts à Cholet jusqu'à aujourd'hui. C'est un des joueurs français de NBA avec lequel j'ai eu le plus l'occasion, je pense, de faire d'interviews, ou du moins de les faire de manière régulière, en fait. Fait que tu vois. Mmh. Tout au long de sa carrière. Et moi, j'ai toujours eu ce même sentiment au sujet de Rudy. C'est quelqu'un qui est intéressant, qui a des choses qui l'intéressent beaucoup. Et ce que je ne sais pas, en fait, c'est soit simplement, il ne se sent pas obligé de partager tout ça avec le reste du monde, dans le sens, il s'en fiche un petit peu de montrer, il a pas ce besoin intrinsèque de montrer aux gens qu'il est intéressant ou qu'il pense ceci, cela, etc. Et en même temps, ce qui est paradoxal, mais on est tous complexes, il y a ce manque de reconnaissance pour le travail qu'il fait sur le terrain depuis toujours, parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début, c'est quelqu'un, pour saisir vraiment son importance, c'est dans la subtilité du jeu, en fait, que tu peux vraiment la saisir. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux sur le travail, sur son alimentation, sur son hygiène de vie, qui vraiment, que c'est un compétiteur, c'est un énorme compétiteur qui est extrêmement rigoureux dans son travail. Et ça, par essence, c'est la partie qu'on ne voit pas, en fait. C'est la partie qu'on ne voit pas. Et comme lui, je pense qu'il n'a pas la volonté de montrer cette partie-là, je pense que pour le public lambda, tu parlais en équipe de France, dis, bah, c'est le plus grand, lui. Pourquoi il ne marque pas les paniers? Il y a un petit peu ce côté, comme quand tu vas voir un match de U13. Ah, oui, il est tout grand, lui. Pourquoi il ne met pas les points là? Tu vas donner la balle au grand. Il y a un peu ça. Alors, c'est paradoxal, c'est cliché. En même temps, dans une certaine mesure, parfois, je comprends. Et des fois, effectivement, bien sûr qu'on aimerait que Rudy ait une palette offensive encore plus variée. Mais voilà, tout le monde n'a pas la chance d'être Hakim Olajuwon ou Victor Wembanyama. Il faut se rendre compte aussi de cette réalité des choses. Et pour le reste, je pense aussi qu'il y a une partie de maladresse dans la communication, où c'est, encore une fois, je pense que c'est pas quelqu'un qui a le sentiment d'avoir de besoin de montrer qu'il est, de jeter la poudre aux yeux, du moins d'en montrer beaucoup aux gens. Et en même temps, je pense que parfois dans sa communication, il est peut-être pas un petit peu, je sais pas si c'est de la maladresse ou de pas être de, ou si c'est sa manière de s'exprimer simplement qui fait que ça passe manifestement pas très bien, ou du moins pas toujours bien auprès du public. Ça reste quand même, pour moi, assez mystérieux, au bout du compte, je te le cache pas. Tu vois, l'image de Rudy par rapport la différence entre le joueur et la perception que les gens s'en font, je me l'explique pas complètement. Bon, voilà, cet été, il y aura les Jeux Olympiques à Paris avec la France, même si c'est déjà un joueur qui a fait des belles perfs avec l'équipe de France, sera peut-être le moment d'une dernière et irrémédiable réconciliation, mais des fois, ça me laisse... oui, c'est ça. Je me l'explique pas complètement, quoi.
Tu sais à quoi ça me fait penser un peu? Alors, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas... on les classera évidemment pas dans les mêmes hauteurs, dans les mêmes sphères à la fin, quand ils auront respectivement pris leur retraite, mais c'est un peu le même mystère qu'avec Kevin Durant, un peu, tu vois. C'est-à-dire que il y a ce côté, non, mais moi, je veux pas parler des trucs, laissez-moi, je suis juste un hooper, il adore dire ça, tu vois. Et les rares fois où il est sorti de sa réserve, il y avait notamment un truc en 3 ou 4 épisodes avec Bill Simmons, il y a 6 ou 7 ans, oui, je ne sais plus. Maintenant, on peut plus gérer, donc et là où il avait été un peu hyper franc du collier et tout, et il y avait plein de trucs qu'il avait dit dedans qui lui avaient été reprochés, côté trop cash et machin, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte et machin. Et donc, tu as ce côté-là, oui, où il veut être laissé tranquille sur les sujets, il veut pas donner son avis sur tout, mais à côté de ça, tu sens quand même que dans sa quête d'identité, il y a le besoin d'être reconnu à certains moments de sa carrière. Pourquoi c'est pas moi le numéro 1 de la ligue? Pourquoi est-ce que tout le monde attribue à Steph Curry le titre alors que c'est moi qui l'aurais ramené à un back-to-back? Pourquoi est-ce que LeBron est toujours en tête des classements de machin? Enfin, et à côté de ça aussi, il sent le besoin de répondre aux gens sur Internet dès qu'il est un peu attaqué. L'histoire des burner accounts, enfin, oui, il est obligé de se planquer pour répondre à des gens. Il y a ce côté où Rudy aime foncièrement le basket aussi, je pense, et il voudrait limite de ne faire que jouer et qu'on le laisse tranquille sur le reste, je pense. Ça m'a l'air d'être... je le connais pas intimement, mais c'est comme toi, je l'ai déjà interviewé une fois ou deux. Mais, et à côté, ce besoin quand même de dire, et regardez, avec tout le travail que je fais depuis 10, 15, 20 ans, on continue de me dire que je suis surcoté, que je mérite pas tel ou tel truc. Et il y a ces deux choses qui se confrontent et qui s'entrechoquent, à mon avis, dans sa personnalité, dans son caractère. Et ça reste un des mystères, je trouve, qui sont difficiles à expliquer. Moi, c'est le point de vue américain qui me perturbe le plus, parce que le grand public français, t'as raison, c'était bien résumé le côté, bah, c'est le grand, il faut qu'il... pourquoi c'est pas lui qui marque tous les paniers? Pourquoi il met pas 40 points par match? Aux États-Unis, c'est plus, il y a un mélange de plein de trucs qui m'interpelle, parce que quand tu parles aux gens qui l'ont côtoyé, qui ont joué avec lui, ils ont tous que des choses incroyables à dire sur lui. Limite, bah, je disais Ingles, mais c'est pas le seul. Des mecs qui disent, bah, il m'a donné une carrière parce qu'on a... on a l'impression que je suis un bon défenseur grâce à lui, et c'est un mec qui est incroyablement fort. Donc ça, voilà, c'est un peu le mystère Rudy Gobert, et peut-être que sa fin de carrière, bon, je lui souhaite encore de longues années, hein, il a que 31 ans.
Il est quasiment jamais blessé. Hein.
Il est hyper fiable en plus, ben ça, c'est aussi le travail et l'hygiène de vie dont tu parlais. J'espère que les prochaines années vont l'aider à peut-être se construire un palmarès un peu plus gros encore, à changer un peu de l'image, peut-être aussi, peut-être, même si ça... est-ce que ça l'intéresse vraiment, je sais pas. Parce que sinon, il dirait pas... il lancerait pas des pavés dans la mare sur les arbitres, sur l'histoire avec le Hall of Fame, tout ça. Mais je pense que ça mériterait... peut-être que plus tard, quand il n'y aura plus la pression d'être en plein milieu d'une carrière, peut-être qu'il arrivera mieux à exprimer ce qu'il voulait exprimer dans l'instant où il a prononcé certains... où il a fait certaines déclarations. Et ça, je pense que ce sera le cas, en fait. Là, il est trop. C'est une espèce de tourbillon. Il a l'image qu'il renvoie aux médias américains, l'image qu'il renvoie aux médias français. C'est pas simple à gérer. Enfin, plus les tempêtes dont on parlait avec le Covid, enfin, faut se rendre compte. C'est-à-dire que, évidemment, nous-mêmes, on a regardé le truc, on s'est dit, non, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, pourquoi il a fait ça? En plus, on avait moins d'informations qu'on en a aujourd'hui. C'était une période vraiment, enfin, pour toute la planète, c'était particulier. Et même nous, en regardant, on s'est dit, mince, mais ça, est-ce que ça méritait le truc qu'il a pris derrière? Enfin, il a duré, c'était un procès invraisemblable pendant des mois. Enfin, et Donovan Mitchell voulait plus lui parler, il lui répondait plus au téléphone, le mec. Enfin, tu vois, c'était limite ça. Et ça a provoqué indirectement la fin de, je pense, hein, de leur histoire au Jazz, je pense.
En partie, s'ils avaient été en finale NBA, ça n'aurait pas été la même histoire, quoi.
Mais la manière dont cette crise a été gérée par les autres, par les médias, ouais, par tout ça, ça, je pense que ça n'a pas aidé, en tout cas.
C'est clair. Non, c'est clair. Bon, bah, écoute, je pense que voilà, le mystère reste encore entier. Et effectivement, comme tu l'as dit, il reste de belles saisons devant lui, même pour qu'on puisse mieux comprendre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, que ça soit la course pour le trophée de l'année. Est-ce que vous trouvez que l'amende a été justifiée, 100 000 $? Est-ce que vous pensez que voilà, sa place au Hall of Fame, ou votre avis tout simplement sur Rudy? Aidez-nous à résoudre un petit peu ce mystère entre la qualité du joueur et la perception qui est faite de lui. Nous, on vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour tous les rendez-vous que vous connaissez. N'oubliez pas, donc, le MOOC River spécial Spurs est disponible exclusivement sur la boutique en ligne de basketsession.com. Mardi, Late Session, Shai.
Toujours.
Voilà, donc à partir de 23h sur Twitch, venez discuter avec nous en live. On vous retrouve toute la semaine pour les rendez-vous que vous connaissez, et puis on vous dit à très vite. Ciao.
Ciao.
Out there, and it's either play or get played.